du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, Gaudete semper in domino, important de s'appuyer sur la parole divine car elle est vivante, cette parole, Philippiens 4:4, facile à s'en souvenir. Nous réjouir deux fois par an, l'Église nous convoque à une réjouissance toute particulière, celle du dimanche de l'Étaré pendant le carême, et celle d'aujourd'hui, dit de Gaudete, raison des mots de saint Paul, de nous réjouir. Mais pourquoi nous réjouir tant? C'est très simple, je vais d'abord voir quelle est la cause de notre joie, pour ensuite tenter d'examiner ce qu'est cette joie. C'est difficile parce que c'est un sentiment très intérieur. Tout d'abord, quelle est la cause de notre joie? Pourquoi les chrétiens se réjouissent-ils alors que tout le monde pleure, tout le monde est en train de se plaindre, etc.? Est-ce que les chrétiens n'auraient pas d'esprit? Non, ce n'est pas ça. Les chrétiens se réjouissent malgré les ennuis du monde qui existent et qui nous sommes invités à les voir. Nous nous réjouissons tout simplement parce que l'Écriture nous le dit, le Seigneur est proche. Et Jean le Baptiste est le précurseur qui va inaugurer cette proximité avec le Seigneur. Vous le savez, tout le monde vient à Jean le Baptiste, on le tient pour un grand prophète, sinon le prophète qui doit venir, peut-être même Élie lui-même redescendu du ciel. Les Hébreux l'attendaient puisque, vous le savez, Élie est parti sur un char de feu, il ne semble pas être mort sur terre. Et donc on se disait qu'il devait revenir. Lui est le Messie de Dieu. Alors, Saint Jean-Baptiste est tellement admiré de son vivant, le peuple entier vient au désert, que les chefs des prêtres l'envoient interroger pour savoir s'il est bien ou pas le Messie. L'humilité du Baptiste n'a d'égal que le reste de ses autres vertus. Il va dire bien clairement, il lui a fallu avoir beaucoup de courage pour refuser de se faire roi, de se faire proclamer le grand prophète lui-même. Il le dit bien clairement, ce n'est pas lui. Alors bien sûr, il intrigue beaucoup, et c'est normal qu'il intrigue, car vous savez qui est Jean le Baptiste. C'est le fils de Zacharie, un grand prêtre. C'est le fils d'Élisabeth, qui elle-même est de la tribu des Lévites. C'est donc que c'est un prêtre par excellence, Jean le Baptiste, et même il est destiné à devenir grand prêtre un jour, normalement. Alors normalement, il aurait dû être dans le temple pour sacrifier. Il aurait dû se marier pour transmettre le sacerdoce lévitique à ses enfants. Et voilà, vous comprenez pourquoi on l'appelle le précurseur. C'est qu'il est précurseur d'un nouveau sacerdoce. Il a compris, lui le Baptiste qui a déjà tressailli dans le sein de sa mère, sa joie n'est pas de maintenant, elle est du début de sa vie. Il a compris que un nouveau sacerdoce allait s'établir, une nouvelle alliance allait naître et que l'ancienne était arrivée à son terme et qu'elle allait devenir caduque. Voilà pourquoi il n'est pas dans le temple, il est au désert. Voilà pourquoi il n'est pas marié et qu'il se consacre entièrement à Dieu, inaugurant dans sa personne de précurseur le sacerdoce qui allait venir. Alors nous aussi, mes bien chers frères, comme le Baptiste, nous sommes invités à vivre du sacerdoce, c'est-à-dire de ce qui nous est donné du sacerdoce du Christ. Car il n'y a plus qu'un seul grand prêtre, c'est le Christ lui-même. Et nous y associons en communion, en venant assister à ce sacrifice unique dans le temps, ce sacrifice qui a eu lieu il y a 2000 ans, et que la parole divine du Seigneur, éternellement présente, rend par l'efficacité du sacrement, c'est-à-dire la présence du prêtre qui opère, rend présent ce sacrifice éternel. Voilà notre joie immense de savoir que nous pouvons nous associer au sacerdoce du Christ en le recevant, en communiant, c'est tout le Christ que vous recevez, le grand prêtre qui vient jusqu'à vous. Car ne vous y trompez pas, notre fête de Noël, c'est bien cela, c'est la venue du Christ. Et bien sûr, il s'agit de sa venue du Christ dans l'histoire, c'est-à-dire sa venue il y a 2000 ans. Mais ce n'est pas tout, car nous ne faisons pas simplement, notre fête n'est pas que mémorielle, c'est-à-dire de nous souvenir, ce qui est déjà beau, qu'il est venu il y a 2000 ans, fidèles que nous sommes, fêter en quelque sorte son anniversaire, ce n'est pas inexact de le dire, mais c'est bien incomplet. car nous fêtons la venue du Christ dans le temps, dans la chair et l'humilité, mais nous le fêtons aussi dans l'histoire, c'est-à-dire ce temps qui perdure pour nous à travers le corps mystique du Christ, qui est l'Église, se répand cette venue jusqu'à la fin des temps. Une venue en esprit, dit saint Bernard, et en puissance. Ne vous y trompez pas là non plus, la venue de Dieu est puissante, elle a réussi à établir son Église qui se répand de sa création jusqu'aux extrémités de la terre aujourd'hui et qui se répandra jusqu'à la fin du monde. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore une troisième cause de la venue une troisième cause de notre joie qui est la venue du Christ dans la gloire, quand il se manifestera pleinement à la fin des temps. Alors voilà ce que nous fêtons, ce que nous attendons et la cause de notre joie. Il est proche, le Seigneur. Il est tellement proche qu'il est déjà venu, qu'il continue de venir, qu'il va se rendre lui-même présent, poursuivant l'incarnation, ici, dans le pain et le vin, et qu'il viendra dans la gloire, car cette communion, vous le savez, n'est qu'un acompte, les arts de la vie éternelle qui vous sont donnés de vivre maintenant sur terre. Voilà la cause de notre joie. Vous allez au-devant du Seigneur qui vient, vous préparez son chemin en préparant votre propre cœur, et ce chemin, il est ici, au pied de l'autel. Voilà pour la cause de notre joie, mes bien chers frères, qui, vous le comprenez, doit être immense. Cette joie, quelle est-elle exactement? Elle est d'abord un sentiment profond de béatitude et de paix. Oui, c'est une joie qui n'est pas une joie mondaine, qui n'est pas la joie de qui a raconté une bonne histoire ou peut-être a connu un repas trop arrosé. Non, il ne s'agit pas de cette joie-là. Il s'agit d'une joie profonde qui vient d'un don, qui vient du don que vous faites de la vie à vos enfants, qui vient du don que vous faites jour après jour de l'attention que vous portez à leur éducation, qui vient du don que vous faites l'un à l'autre dans le mariage, qui vient du don que vous faites aux autres dans la charité, qui vient du don de votre présence dans l'Église. Cette joie n'est pas une joie qui attrape et qui prend, cette joie est une joie qui se donne, une joie qui ne peut pas s'épuiser car elle se multiplie au fur et à mesure qu'elle se donne. Voilà la joie très profonde dont nous vivons, une joie étonnante pour le monde qui ne s'épuise que lorsqu'on ne la donne pas. Oui, cette joie est tellement importante que saint Ignace de Loyola en fait, dans ses critères de discernement du bien et du mal, une certitude de la présence de Dieu. Et il est accompagné d'un autre sentiment qui lui est conjoint, saint Paul nous le dit, « Ne soyez pas inquiets, inquietus », c'est-à-dire sans paix. La joie profonde doit nous amener à la paix, c'est-à-dire la joie que personne ne peut nous retirer. Et oui, saint Ignace le dit, si vous commettez un acte, si vous êtes dans une situation qui produit en vous des fruits de joie intérieure permanents et de profonde paix, alors soyez certain que c'est un acte bon, un état bon. Si au contraire, vous commettiez des actes pour plaisants qu'ils soient ou apparemment bons qu'ils soient, s'ils produisent en vous une inquiétude, une tristesse, départissez-vous de ces actes car ils ne sont sûrement pas de Dieu. Voilà une profonde connaissance de nous-mêmes et de notre vie. Cette joie, c'est une joie qui vient de Dieu. C'est une avance sur la béatitude éternelle. Voilà ce dont vivent les chrétiens. Alors mes bien chers frères, il ne nous reste plus qu'à l'exporter cette joie, c'est-à-dire, ça s'appelle l'apostolat, à la répandre. Vous le savez peut-être, un ennemi de l'Église, en tout cas un ennemi du christianisme bien affirmé et fort fin dans ses remarques, nous avait adressé cette critique en disant que les chrétiens avaient bien souvent des faces de carême et pas beaucoup des gueules de ressuscité. Alors, même si cette critique était certainement empreinte d'une petite mauvaise foi, car il n'est pas besoin d'être chrétien pour faire la tête, eh bien, il nous faut tout de même la recevoir. Si nous vivons vraiment de cette joie, si en venant au pied de cette crèche, au moment de Noël, vous vous agenouillez, dites-vous bien que vous vous agenouillez devant la source de votre joie, devant la joie du Seigneur qui est venu, qui vient et qui viendra, cette joie qui vous apporte la paix, cette joie dont vous voulez vivre et dont vous voulez faire partager le monde, car c'est la béatitude elle-même dont nous vivons déjà sur terre. Les chrétiens possèdent, s'ils le veulent bien, le chemin qui mène à Dieu. Il s'appelle le Christ. Vivez de cette certitude joyeuse et communicative afin que vraiment le monde soit sauvé. Ainsi soit-il.